Samuel Johnson, Histoire de Rasselas, Prince d'Abyssinie, chapitre 26 à 30. Chapitre 26, suite des réflexions de la princesse sur la vie privée. Nekaya, s'apercevant que son frère l'écoutait avec attention, continua ainsi. Que les familles soient dans l'aisance ou dans la pauvreté, la discorde y règne presque toujours. Si un royaume n'est qu'une grande famille, selon l'expression d'Imlac, une famille à son tour est un petit royaume divisé par des parties et sujet à des révolutions. Un observateur sans expérience croit à la réciprocité d'affection des enfants et des pères. Eh bien, il est rare que cette affection survive aux années de l'enfance. Alors elle fait place à la rivalité, les bienfaits se mêlent de reproches et l'envie vient flétrir la reconnaissance. Il y a rarement accord entre un père et ses enfants. Les enfants prétendent chacun à une estime et à une tendresse exclusive. Les parents, à leur tour, quoiqu'avec un intérêt moins direct, usent de trahison l'un envers l'autre auprès de leurs enfants. Le père devient le confident des uns, tandis que la mère a seule la confiance des autres. De là ces artifices, ces discordes qui, de proche en proche, remplissent toute la maison. L'opposition est naturelle entre les enfants et les pères, entre les jeunes gens et les vieillards, parce qu'il y a chez les uns avenir et confiance, chez les autres expérience et découragement. Ce n'est crime ni folie d'aucune part. Dans la jeunesse et dans la vieillesse, la vie se revêt de couleurs différentes, comme l'aspect de la nature au printemps et en hiver. Comment donc les enfants pourraient-ils croire aux assertions de leurs pères lorsqu'elles sont démenties par le témoignage de leurs propres yeux ? Peu de pères agissent d'ailleurs de manière à fortifier leurs maximes par l'autorité de leur exemple. La vieillesse ne voit de succès que dans des combinaisons mûries et dans une lente progression. La jeunesse veut percer à force de génie, de promptitude et de vigueur. L'une respecte la richesse, l'autre honore la vertu. Ici, on se fait un dieu de la prudence, tandis que la jeunesse, toute généreuse, aime à s'abandonner à la fortune. Le jeune homme qui ne pense pas au mal et qui croit que personne n'y pense agit avec franchise et candeur. Mais son père, qu'on a souvent trompé, est toujours porté à la défiance et quelquefois même à la fraude. La témérité du jeune âge fait le supplice des vieillards, dont les timides scrupules sont un objet de dédain pour la jeunesse. Aussi, à mesure qu'on avance dans la vie, l'affection diminue de plus en plus chez la plupart des enfants et des pères. Et si ceux que la nature a si étroitement unis ne sont les uns pour les autres que des objets de tourment, où chercher dans ce monde de la tendresse et des consolations ?
Il faut, dit le prince, que vous ayez mal choisi vos sociétés. Je me refuse à croire qu'une invincible nécessité doive inévitablement, à la longue, altérer ainsi la douceur du plus tendre des liens.
Les divisions domestiques, répondit-elle, ne sont pas la condition fatale et nécessaire de la destinée sociale, mais il n'est pas facile de les éviter. Tous les membres d'une famille ne sont pas également vertueux. Les bons s'entendent mal avec les méchants, et les méchants plus mal encore avec ceux qui leur ressemblent. Les hommes vertueux eux-mêmes cessent quelquefois d'être d'accord. Il suffit que leur vertu soit de différentes natures et portée à l'exagération. En général, les parents les plus respectables sont aussi ceux qui obtiennent le plus de respect de leurs enfants, car le mépris ne peut s'attacher à une conduite honorable. Beaucoup d'autres peines encore affligent les existences privées. Les uns sont esclaves des domestiques à qui ils ont confié leurs affaires, les autres, en butte aux caprices de riches parents, éprouvent le tourment continuel de ne pouvoir pas leur plaire et de n'oser pas les offenser. Il y a des maris impérieux, des épouses coupables, et comme il est toujours plus aisé de faire le mal que le bien, la perversité d'un seul homme fait plus d'infortunés que sa sagesse ou sa vertu ne peut faire d'heureux.
S'il en est ainsi du mariage, dit le prince, je regarderai dorénavant comme une chance périlleuse l'union de ma destinée à celle d'une autre. Je ne veux pas devenir malheureux par la faute de ma compagne.
J'ai rencontré, dit la princesse, beaucoup de gens qui restent célibataires par cette raison. Mais je n'ai jamais trouvé que tant de prudence dût leur être enviée. Leur existence est un songe que n'embellit ni l'amitié ni la tendresse. Ils sont réduits à tromper par des amusements puérils ou par des plaisirs blâmables la longueur de leurs jours inoccupés.
On voit percer dans toutes leurs actions le sentiment d'une évidente infériorité qui remplit leur esprit d'aigreur et leurs paroles d'amertume. Ils sont moroses chez eux, médisants dans le monde, et placés en dehors de la loi commune, leur seule affaire, leur seule joie est de troubler la société qui les a déshérités de ses privilèges. Vivre sans exciter quelque affection et sans en éprouver soi-même, être heureux sans rien ajouter au bonheur des autres, ou souffrir sans pouvoir goûter le baume de la pitié, c'est un état plus triste mille fois que la solitude. Ce n'est pas la vie d'un ermite, c'est celle d'un exilé. Si le mariage a beaucoup de peine, le célibat n'a aucun plaisir. « Que faut-il donc faire ?» dit Rasselas. « Plus nous cherchons, moins nous approchons du but. Assurément, l'homme qui a le plus de chance pour se plaire en ce monde est celui qui n'a jamais à consulter d'autre inclination que la sienne. » Chapitre 27. Dissertation sur la grandeur. Il se fit un moment de silence. Après avoir réfléchi sur les observations de sa sœur, Rasselas soutint qu'elle avait vu les choses d'un œil prévenu et qu'elle supposait beaucoup de malheurs qui n'existaient pas. « Votre récit, ajouta-t-il, répand de trop sombres couleurs sur notre avenir. Les prédictions d'Imlac ne seraient qu'une faible esquisse des mots dépeints par Nekaya. De récentes observations m'ont convaincu que le bonheur n'a pour principe ni la grandeur, ni la puissance, qu'on ne saurait l'acheter à prix d'or, ni l'obtenir par la conquête. Il est évident que plus l'homme agrandit sa sphère, plus il multiplie les chances d'inimitié de la part de ses semblables, de disgrâce de la part de la fortune. Quiconque a beaucoup de monde à satisfaire ou à gouverner a besoin du ministère de beaucoup d'agents. Il en trouvera qui le feront souvent mal agir, ceci par ignorance, cela par perversité. Égaré par les premiers, il sera trahi par les seconds. Les largesses répandues d'un côté excitent des haines de l'autre. Ceux qui ne participent point aux grâces croient qu'on leur fait injure, et comme les faveurs ne peuvent jamais être que le partage du petit nombre, la masse est toujours mécontente. Quand le mécontentement sera ainsi déraisonnable, dit la princesse, il y aura toujours, j'espère, assez de courage chez moi pour le mépriser, et chez vous assez de pouvoir pour le contenir. Le mécontentement, répondit Rasselas, n'est pas toujours dénué de raison. Il peut arriver qu'obscurci par la misère ou par les efforts de l'intrigue, le mérite échappe aux regards les plus attentifs, et quelque puissance qu'on ait, on ne peut pas toujours le récompenser. Cependant, nul n'éprouve un passe-droit qu'il ne l'impute à la passion ou au caprice. Mais de bonne foi, où trouver une volonté et une puissance assez fortes pour tenir toujours égale envers chacun la balance de la justice? On cède tantôt à ses affections, tantôt à celle de ses favoris. On se laisse aller à aimer les hommes qui savent flatter, mais qui ne savent pas servir. On trouve en eux des qualités qu'ils n'ont pas, et parce qu'ils plaisent, on veut leur complaire à son tour. C'est par ce moyen que prévalent souvent des protégés qu'appuient l'or de la corruption ou le poison plus dangereux encore de la bassesse et de la flatterie. Quiconque a beaucoup à faire doit se tromper quelquefois, et toute faute porte sa conséquence. Enfin, s'il était possible de trouver un homme qui ne tombât jamais dans l'erreur, il y a tant de personnes appelées à juger sa conduite qu'elle rencontrerait encore des obstacles dans les censures dont elle serait l'objet, de la part de médisants sans bonne foi ou même de gens de bien sans lumière. Le bonheur n'habite donc pas dans les positions élevées. Et quand il fuit les trônes et les palais, c'est, n'en doutons pas, pour se fixer dans de plus humbles séjours et des demeures plus tranquilles. Comment en effet imaginer qu'un homme puisse ne pas être heureux, ne pas voir réaliser tous ses calculs, si ses occupations ne dépassent point sa capacité, s'il embrasse avec ses propres yeux tous les rayons du cercle dans lequel il agit, s'il juge et choisit par lui-même les dépositaires de sa confiance, et si l'intérêt ou la crainte n'engage jamais personne à le tromper? Un tel homme, à coup sûr, n'a qu'une mission à remplir dans le monde, celle d'aimer et d'être aimé, de faire le bien et d'être heureux. La félicité parfaite réside-t-elle dans la parfaite vertu? Dit Nekaya. C'est une question dont on chercherait vainement ici-bas la solution par des exemples. Mais à coup sûr, à en juger par ce qu'on voit, on ne trouve point le bonheur chez les hommes en proportion de la vertu. Les méchants et les bons souffrent également des calamités de la nature et des catastrophes politiques. La famine les confond dans ses ravages. La discorde civile ne les distingue point dans ses fureurs. Ensemble, ils s'abîment dans une tempête. Ensemble, ils sont chassés de leur foyer par un vainqueur. La vertu ne donne rien que la paix de l'âme et la confiance d'un avenir plus heureux. Elle peut nous apprendre à endurer le mal avec résignation, mais n'oubliez pas que la résignation suppose nécessairement la souffrance. Chapitre 28. Rasselas et Nekaya continuent leur conversation. « Chère princesse, dit Rasselas, vous tombez dans l'hyperbole et la déclamation lorsqu'au milieu d'une discussion sur la condition ordinaire des hommes, vous citez des calamités publiques et ces grands désastres qu'on voit plus souvent dans les livres qu'en réalité, et que l'ordre de la nature doit rendre fort rares, par cela seul qui sont horribles. N'imaginons pas des maux que nous n'éprouvons point, et ne chargeons pas de fausses couleurs le tableau de la vie. Je ne saurais souffrir cette éloquence morose qui prédit à toute ville en état de siège le sort de Jérusalem, qui voit la famine à la suite de la plus petite invasion de sauterelles, et qui suspend la peste aux ailes du moindre vent que nous envoie le midi. Il y a des maux nécessaires, inévitables, qui d'un seul coup accablent des royaumes entiers. Toute discussion est inutile à leur égard. Quand ils arrivent, il faut les endurer. Mais il est incontestable qu'on a plus souvent à redouter ces catastrophes soudaines et universelles qu'à les subir. Des milliers, des millions d'individus voient les fleurs du jeune âge se faner avec le temps, sans connaître d'autres afflictions que les malheurs domestiques. La mesure de leur plaisir ou de leur peine ne dépend ni du caractère doux ou cruel du souverain, ni des victoires ou des désastres de ses armées. Pendant que les ambitions particulières divisent les cours, pendant que les ambassadeurs négocient dans les contrées étrangères, le forgeron frappe son enclume, le laboureur trace son sillon, chacun pourvoit chaque jour à ses besoins, et les révolutions ordinaires des saisons ramènent une succession uniforme de travaux. Cessons de nous occuper d'événements qui peuvent n'arriver jamais, et qui, si la fatalité les amène, déjoueront toutes nos prévisions. Ne cherchons ni à modifier l'action des éléments, ni à fixer la destinée des empires. Nous n'avons à examiner que ce que des êtres tels que nous peuvent exécuter pour leur bonheur personnel, en travaillant dans leur propre sphère, quelque étroite qu'elle soit, au bonheur des autres. Le mariage est évidemment le vœu de la nature. L'homme et la femme sont faits pour vivre dans la compagnie l'un de l'autre, et conséquemment, je ne puis me persuader que le mariage ne soit pas un moyen de félicité. « Je ne sais, dit la princesse, s'il n'est pas plutôt l'un des innombrables modes de l'humaine misère. Quand je passe en revue toutes les chances d'infortune conjugale, sous des apparences diverses, tant de causes imprévues de discorde et de haine, l'opposition des humeurs, la diversité des opinions, la collision de désirs contraires, soutenus des deux côtés avec une violente ardeur, l'opposition obstinée de vertus incompatibles, où de chaque part on se croit fort de sa bonne intention, j'incline quelquefois à penser, avec les plus rigoureux casuistes de beaucoup de pays, que le mariage est plutôt permis qu'approuvé, et que sans l'entraînement d'une passion irrésistible, personne n'irait de gaieté de cœur se jeter dans les liens d'un contrat indissoluble. « Mais vous oubliez, répliqua Rasselas, que vous-même ici représentiez tout à l'heure le célibat comme moins heureux que le mariage ?» Ces deux situations peuvent n'être bonnes ni l'une ni l'autre, mais chacune d'elles ne saurait être la pire des deux. Ainsi, lorsqu'on se place dans un cercle vicieux, les erreurs se détruisent mutuellement, et l'esprit peut alors s'ouvrir à la vérité. « Je ne m'attendais pas, dit la princesse, à voir accuser ma sincérité pour les torts de mon intelligence. L'esprit n'est pas plus capable que l'œil de comparer exactement des choses qui ont une si grande portée et qui admettent des variétés infinies dans leurs détails. Là où l'on saisit un ensemble d'un seul coup d'œil, il est facile de signaler les différences dans les objets et de justifier son choix. Mais quand il est question de deux systèmes qu'aucune intelligence humaine n'est capable d'embrasser dans toute leur étendue et dans leur inconcevable complication, pourquoi s'étonner de ce que ne pouvant juger le tout que par partie, j'incline alternativement d'un côté ou d'un autre, selon que mes souvenirs ou mon imagination m'y portent. Dans les combinaisons infinies des questions de morale et de politique, où l'on ne peut voir qu'une face des objets, il est inévitable de se trouver quelquefois en opposition avec soi-même aussi bien qu'avec les autres. Ce n'est que dans la précision des propositions mathématiques, dont un seul coup d'œil suffit pour apercevoir l'ensemble et les rapports, qu'il n'y a pour tous qu'un seul jugement possible, et qu'il n'est permis à personne de varier dans sa propre opinion. « N'ajoutons pas, dit le prince, l'aigreur de la discussion aux mots qui empoisonnent la vie, et cessons de faire l'un l'autre à saut d'arguments et de subtilités. Nous nous proposons un but, qu'il nous sera également heureux d'atteindre et fâcheux de manquer. Il est donc juste de nous prêter une assistance mutuelle. À coup sûr, vous tirez trop vite des inconvénients du mariage, une conséquence défavorable à l'institution elle-même. Doit-on conclure de la misère de la vie qu'elle n'est point un présent du ciel ? Le mariage doit peupler le monde, ou le monde se peupler sans lui. Qu'il se peuple d'une façon ou d'une autre, reprit Dekaya, ce n'est point là mon souci, et ce ne doit pas être le vôtre. Je n'appréhende pas que la génération présente néglige de se donner des successeurs. Ce n'est pas le monde, c'est nous-mêmes que nous recherchons pour objet. Chapitre 29. Suite de la discussion sur le mariage. Le bien général ne peut être, dit Rasselas, que le bien de chacun en particulier. Si le mariage est ce qu'il y a de mieux pour l'espèce, il est aussi ce qu'il y a de mieux pour l'individu, ou bien il faut qu'un devoir impérieux et permanent devienne une cause de mal, et que de toute nécessité le petit nombre soit sacrifié à la masse. Dans l'appréciation que vous avez faite de l'un et l'autre état, les inconvénients du célibat me semblent tenir à son essence et être conséquemment inévitables. Ceux du mariage sont accidentels et peuvent être évités. Je croirai toujours qu'avec de la prudence et un caractère bienveillant, on peut être heureux dans le mariage. C'est la folie générale de l'espèce humaine qui cause le malaise universel. Comment ne pas trouver le repentir et les regrets à la suite d'un choix fait dans l'inexpérience de l'âge et l'ardeur des désirs, avec légèreté et imprévoyance, sans égard pour la conformité des goûts, pour le rapport des caractères, pour la rectitude du jugement, pour la pureté du cœur. Ainsi se font presque tous les mariages. Un jeune homme et une jeune fille se rencontrent, une circonstance combinée ou fortuite les a rapprochés. Ils échangent des regards, s'adressent quelques civilités, rentrent au logis et rêvent l'un à l'autre, faute peut-être d'objets qui les occupent ou qui portent ailleurs leur esprit. Ils éprouvent une sorte de malaise quand ils ne sont pas ensemble, et on conclut qu'ils seront heureux quand ils seront réunis. Ils se marient et découvrent bien vite ce qu'un aveuglement volontaire avait pu seul les empêcher de voir. Leurs jours se consument en querelles et ils accusent la nature de cruauté. De ces unions prématurées naissent les rivalités entre les pères et les enfants. Le fils est empressé de jouir du monde avant que le père consente à s'en retirer. Il est bien difficile que deux générations se trouvent à leur aise ensemble. Les charmes de la fille vont éclore avant que la mère soit résignée à voir les siens se flétrir et chacune involontairement désire l'absence de l'autre. Sûrement, on peut éviter tous ces maux en agissant avec la réflexion et la maturité qu'exige un choix sur lequel il n'y a point à revenir. Dans la jeunesse, au milieu des distractions et des plaisirs qui s'offrent de tous côtés, on n'a pas besoin de second pour supporter l'existence. Les années ajoutent à l'expérience et multiplient les moyens de comparaison et de choix. Elles offrent du moins un avantage incontestable, c'est de laisser aux pères le temps de paraître visiblement plus vieux que leurs enfants. Dans les cas où le raisonnement, dit Nekaya, ne peut rien et où l'expérience personnelle manque, il faut recourir au témoignage d'autrui. Si j'en crois ce qu'on assure, les mariages tardifs ne sont pas fort heureux. J'ai souvent interrogé sur cette question importante des personnes qui observent avec soin, jugent avec justesse et dont par conséquent la vie mérite attention. Elles déclarent qu'en général, il est dangereux d'attacher sa destinée à celle d'un autre dans un âge où les opinions sont fixées, les habitudes prises et les liaisons faites, où l'existence est devenue méthodique et où l'esprit se complaît depuis longtemps dans une perspective qu'il s'est lui-même formée. Rarement il arrive que deux personnes voyageant au hasard dans ce monde suivent précisément le même chemin, et il est peu probable que l'une des deux abandonne la route qu'une longue habitude lui rend agréable. lorsque la mobile insouciance de la jeunesse a fait place à un système réfléchi de conduite, alors vient ordinairement ou l'orgueil qui répugne à céder, ou l'obstination qui se plaît à combattre. À quelque concession que l'on soit porté par un sentiment d'estime réciproque, le temps qui laisse sur les formes extérieures une empreinte ineffaçable agit également sans retour sur l'âme et la roidit contre tout effort qu'elle ferait pour se plier en sens inverse. On ne rompt pas facilement de longues habitudes. Qui essaie de changer le cours de sa vie travaille presque toujours en vain. Comment ferait-on pour les autres ce qu'on est si rarement capable de faire pour soi-même ? Mais vous supposez, dit le prince, qu'on oublie ou qu'on néglige le principal motif qui doit déterminer le choix. Pour moi, si jamais je cherche une femme, je lui demanderai avant tout si elle veut se laisser guider par la raison. Voilà, dit Nekaya, l'erreur des philosophes. Il y a 1000 discussions familières que la raison ne peut jamais terminer. 1000 questions qui n'admettent pas de recherche et rendent la logique ridicule. 1000 occasions enfin où il faut agir et peu parler. Jetez les regards autour de vous. Considérez les circonstances graves ou indifférentes de la vie et comptez ensuite combien il y a de gens qui agissent en se rendant constamment compte de toutes les raisons qui les déterminent. Il n'y aurait point d'expression pour qualifier le sort d'un couple infortuné condamné à soumettre chaque matin aux règles de la raison le minutieux emploi de la journée du ménage. Quand on se marie à un âge avancé, on a guère à craindre la concurrence de ses propres enfants. Mais, par une triste compensation, on s'expose à les laisser dans le monde, encore ignorant et faible, à la merci d'un tuteur, ou tout au moins à quitter le monde avant que ce qu'on aime le plus ait atteint l'âge de la sagesse et de la force. Si on a moins à redouter de ses enfants, on a moins aussi à espérer. On perd sans dédommagement tout ce que l'amour a de charme dans la jeunesse, l'avantage d'unir des caractères simples, des esprits susceptibles d'impressions nouvelles et dont les différences s'effacent dans le commerce habituel, comme on voit par un frottement continu deux corps tendres finir par modeler leur surface l'une à l'autre. Selon moi, quand on se marie tard, on aime mieux ses enfants. Et quand on s'est marié de bonne heure, c'est le sentiment conjugal qui domine. L'union de ces deux sentiments, dit Rasselas, formerait ce qu'il y a de plus désirable au monde. Peut-être y a-t-il un moment où le mariage les rassemble, un moment où il n'est pas trop tôt pour le père, ni trop tard pour le mari. Tout me confirme, répondit la princesse, dans ce que j'ai souvent entendu dire à Imlac, que la nature nous prodigue ses dons de la main droite comme de la main gauche. Les différents objets qui flattent notre espoir en excitant nos désirs sont disposés de telle manière que l'on s'éloigne des uns à mesure que l'on se rapproche des autres. Il y a des biens si opposés qu'on ne peut les saisir à la fois et qu'à force de prudence, il arrive qu'on passe entre les deux sans pouvoir atteindre à aucun. Tel est souvent le résultat d'un trop long examen. Qui veut plus que ce qui est permis à l'humanité n'obtient rien. Ne vous flattez pas de combiner des plaisirs qui s'excluent. Voilà des biens sous vos yeux. Sachez choisir et être content. Il ne nous est pas donné à la fois de savourer les fruits de l'automne et de jouir des fleurs du printemps. Il ne nous est pas donné de puiser en même temps à la source du Nil et à son embouchure. Chapitre 30. Arrivée d'Imlac. La conversation change d'objet. Imlac entra dans cet instant et les interrompit. « Imlac, dit Rasselas, ma sœur m'a tracé un tableau si sombre de la vie domestique que je n'ai pas le courage de pousser plus loin mes recherches. »« Il me semble, dit Imlac, que pendant que vous êtes à la recherche d'un genre de vie, vous oubliez de vivre. Vos excursions se bornent à une seule ville, qui, malgré son étendue, n'a plus guère aujourd'hui d'objets nouveaux à vous offrir. Et vous ne songez pas que vous êtes dans une contrée fameuse, entre les plus vieilles monarchies, par la puissance et la sagesse de ses peuples, dans une contrée où naquirent les sciences qui éclairent le monde, ainsi que les arts et la civilisation, dont on ne trouve nulle trace antérieure hors de ses annales. Les anciens Égyptiens ont laissé après eux des monuments de leur industrie et de leur puissance, devant lesquels s'éclipsent toutes les magnificences d'Europe. Les ruines de leurs édifices sont l'école des architectes modernes et par les restes que le temps a laissés debout, on peut juger, quoique imparfaitement, des merveilles qu'il a détruites. Je n'éprouve, dit Rasselas, qu'une faible curiosité pour des masses de pierre ou de terre accumulées. C'est l'homme qui est mon but. Je ne viens pas pour mesurer des fragments de temples ou pour retrouver la trace de quelques aqueducs encombrés. Je viens pour étudier les scènes vivantes du monde. Ce qui est maintenant sous nos yeux, dit la princesse, réclame et mérite attention. Qu'ai-je à faire des héros et des monuments des siècles passés? Qu'ai-je à faire de temps qui ne peuvent revenir et de héros dont l'existence était si différente de notre civilisation et de nos habitudes? Pour connaître une chose, répliqua le poète, il faut en connaître les effets. Pour voir les hommes, il faut regarder leurs ouvrages. C'est là qu'on apprend ce que la raison leur a prescrit, ce que les passions leur ont commandé. C'est là qu'on parvient à découvrir des causes déterminantes de leur conduite. On ne juge sainement du présent qu'en l'opposant au passé, car un jugement est une comparaison. Et l'on ne peut prendre ces approches dans l'avenir dont on ne sait rien. La vérité est que le présent nous occupe peu. Réminiscence et anticipation. Voilà toute la vie. Les passions de l'homme sont la joie et la douleur, l'amour et la haine, l'espérance et la crainte. La douleur et la joie appartiennent au passé, la crainte et l'espérance à l'avenir. Il n'y a pas jusqu'à la haine et à l'amour qui ne s'adressent aux temps qui ne sont plus, car la cause précède nécessairement l'effet. L'état présent est le résultat d'un état antérieur, et il est naturel de rechercher l'origine du bien dont on jouit ou du mal dont on souffre. S'il n'est pas sage de négliger dans ses propres intérêts les conseils de l'histoire, cet oubli est bien plus grave dans l'exercice de l'autorité. L'ignorance est alors coupable si elle est volontaire, car on devient responsable du mal quand on a refusé d'apprendre à le prévenir. L'histoire n'offre rien de l'intérêt plus général que ce qui touche au développement de l'esprit humain, au perfectionnement de la raison, au progrès de la science, aux vicissitudes du savoir et de l'ignorance qui sont comme le jour et la nuit de la pensée, à l'anéantissement et à la renaissance des arts, enfin à toutes les révolutions diverses du monde intellectuel. Si les princes vont surtout y chercher le récit des guerres et des batailles, ils doivent cependant ne pas négliger les arts qui servent et polissent les hommes. Quand on a des royaumes à gouverner, on a aussi à cultiver des intelligences. L'exemple est toujours plus puissant que le précepte. C'est à la guerre que se fait le soldat. C'est en copiant des tableaux que se forme la main du peintre. De là tout l'avantage de la vie contemplative. On est rarement témoin des grandes actions, au lieu que les travaux de l'art sont toujours apportés pour nous donner la mesure de ce que l'art a pu faire. Que l'œil ou l'imagination soient frappés d'une œuvre extraordinaire, un esprit actif se porte à l'instant aux moyens qui l'ont produite. Ici se montre l'utilité réelle de l'observation. L'intelligence s'accroît de la conquête de nouvelles idées. Quelquefois, on retrouve des arts perdus pour le monde, où l'on éclaircit des faits imparfaitement connus. On compare du moins le temps où l'on vit aux époques qui ne sont plus, et l'on peut s'applaudir de ses progrès, ou, ce qui est le premier pas vers la sagesse, apprendre à connaître ses imperfections. « Je suis curieux, dit le prince, de tout ce qui sert à l'objet de mes recherches. Et moi, dit la princesse, je serais bien aise de savoir quelque chose des mœurs de l'Antiquité. » Le monument le plus pompeux de la grandeur égyptienne, une des œuvres les plus gigantesques de la main de l'homme, ce sont, dit Imlac, les pyramides, constructions élevées avant les époques historiques et sur lesquelles les siècles les plus reculés ne nous ont laissé que des traditions incertaines. La plus grande de ces pyramides est encore debout et le temps ne l'a guère endommagée. Visitons-les demain, dit Nakaya. J'ai souvent entendu parler des pyramides. Et je n'aurai pas de repos que mes yeux ne les aient contemplés, à la fois dans leur distribution secrète et dans leur aspect extérieur.